Okay, bon après-midi à tous. Alors j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de ce cours parce que j'ai eu une extinction de voix vendredi et samedi. Ça va mieux aujourd'hui. J'espère que je vais tenir une heure. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler, on va directement aborder ce dernier cours qui va traiter, je dirais, de l'aspect photovoltaïque, des matériaux pour le photovoltaïque. Alors on a vu la dernière fois, si vous voulez, l'abondance du soleil avec également l'eau, les deux étant des sources d'énergie importantes, et ainsi de suite. Et on va voir aujourd'hui qu'on a pu utiliser finalement ces deux ressources la dernière fois en utilisant ce que j'appellerais la conversion, c'est-à-dire on avait fait directement de la séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène, en utilisant la jonction semi-conducteur métal et liquide, et on avait pu, dans ce cas, générer de l'hydrogène et de l'oxygène. Eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement voir comment on va pouvoir produire de l'électricité à partir du solaire, c'est-à-dire comment on va transformer ces photons en énergie électrique. Alors bien sûr, il y a plusieurs possibilités de faire cela, et on va voir qu'une des possibilités, et qui est connue depuis longtemps, c'est finalement la filière photovoltaïque. Est-ce que c'est une utopie ou une réalité? Eh bien, l'effet photovoltaïque, comme vous le voyez ici, eh bien, date des années 1839 et a été directement le résultat des travaux d'Antoine César Becquerel. Et peu de temps par la suite, eh bien, il y a également eu des travaux qui ont permis de développer la première voiture, je dirais électrique, à base d'énergie solaire, dans laquelle ici vous aviez 10 640 cellules solaires qui sont placées sur le toit de votre véhicule. Et ça, c'était en 1912. Alors la question est, pourquoi aujourd'hui n'avons-nous pas de cette énergie solaire pour toutes les applications et pour toutes nos voitures électriques? Alors bien sûr, il y a eu des développements conséquents ces 40 dernières années, avec de nouvelles technologies, comme on va voir par la suite, les technologies cristallines liées au silicium, sous sa forme ruban, mono ou multi, comme indiqué ici. Il y a eu les technologies, je dirais, couches minces, les deuxième et troisième générations, qui comprennent, comme on va les voir, les tellurures de cadmium, les CIS, ainsi de suite, mais également des cellules solaires à colorant de Gratzel, et on verra ce que sont ces cellules solaires. Et ensuite, eh bien, la dernière génération, qui sont la génération de cellules organiques, qu'on appelle le photovoltaïque organique. Et on va passer en revue quels sont les problèmes de matériaux qui existent dans toutes ces technologies aujourd'hui. Alors, il y a eu 40 ans de recherche. Ici, je vous montrer tout le développement qu'il y a eu. Vous voyez qu'il y a eu une recherche intensive avec différents systèmes où l'on peut voir ici les différentes avancées qu'il y a eu en termes de rendement. On a dans ce cas, par exemple, pu obtenir, on verra comment on peut obtenir 44% dans des hétérostructures, mais tout ça, bien sûr, est à l'échelle du laboratoire. Vous verrez que lorsqu'on va passer, finalement, dans la vie réelle, eh bien, ces rendements vont baisser considérablement. D'où l'exposé que je vais vous montrer aujourd'hui va comprendre différentes parties. Dans un premier temps, je vais vous parler directement des bases du photovoltaïque, le spectre solaire, les semi-conducteurs, les jonctions PN, qui sont à l'origine de ce photovoltaïque, montrerai le principe de fonctionnement. Ensuite, je m'intéresserai aux techniques de couche mince, les filières silicium, les filières, je dirais, tellure de cadmium, CIS, et ainsi de suite. Par la suite, je regarderai les cellules à colorant et je terminerai par les cellules du photovoltaïque organique et vous donnerai quelques conclusions et perspectives sur ces différents types de, sur différents types de cellules. Alors, pour regarder le spectre solaire, eh bien, comme je vous l'ai montré la dernière fois, ce spectre solaire a une partie visible qui est une partie dans laquelle on va pouvoir directement piéger ou absorber l'énergie qu'on va vouloir. Alors pour cela, eh bien, on s'aperçoit que cette énergie est localisée dans ce domaine de potentiel de 3,01 électronvolts à 1,5 électronvolts. Et si on regarde ce que ça donne au niveau des matériaux, on s'aperçoit qu'on a les métaux dans lesquels le niveau de Fermi tombe dans la bande de conduction. Dans ce cas, il n'y a pas de bande interdite. On a des isolants, dans ce cas, la bande interdite va aux alentours de 5 électronvolts. Et on a finalement les semi-conducteurs, dont la bande interdite peut tomber finalement dans ce domaine d'énergie visible, entre 1 et 3 électronvolts. Et je vous noterai ici finalement que l'énergie varie inversement proportionnelle à la longueur d'onde. D'où c'est finalement ces matériaux qu'on va regarder, ces semi-conducteurs. Et la source de cet effet photovoltaïque va provenir finalement de deux semi-conducteurs que j'appellerai semi-conducteur dopé N, indiqué ici, dans lequel on mettra un élément pentavalent au lieu du silicium, c'est-à-dire qui va donner un électron au réseau, et un substituant trivalent, l'aluminium, qui dans ce cas va absorber, c'est-à-dire va créer un trou. Et on va avoir une raison dopé N et dopé P. Et lorsqu'on va mettre ces deux semi-conducteurs l'un derrière l'autre, eh bien, il va se créer une interface, comme vous pouvez le voir ici, due à la formation d'un potentiel très élevé qui va faire en sorte la séparation des charges. Et par conséquent, maintenant, lorsque je vais envoyer un photon sur ce dispositif, eh bien, je vais avoir la création d'une paire électron-trou. Et cette paire électron-trou va se dissocier directement à cette interface pour donner le courant qui va être formé d'électrons et de trous. Mais la difficulté dans tout ça, c'est que c'est directement, vous voyez que vous avez ici cette zone de change d'espace et vous avez des zones de diffusion où on va pouvoir avoir ces différentes paires d'électrons-trous. Et si vous formez une paire d'électrons-trous qui va être trop loin de cette interface, eh bien elle va se recombiner avant, finalement, d'arriver dans cette zone où elle devra se dissocier. D'où toute la difficulté va être, finalement, à faire en sorte d'avoir cette création de paires d'électrons-trous près de cette interface. Et c'est la raison pour laquelle vos panneaux solaires sont des panneaux directement plats, pour avoir directement un contact parfait avec cette interface. Et bien sûr, pour cela, il vous faudra un photon qui aura une énergie plus grande que le gap indiqué ici. Une deuxième importance dans tous ces problèmes de photovoltaïque est indiquée ici. En effet, si vous prenez un métal et si vous pouvez directement, dans ce cas, exciter un électron, eh bien vous avez toute cette énergie cinétique qui va directement être retransmise au métal en donnant cette énergie thermique au métal. Maintenant, si je prends un semi-conducteur, eh bien, je vais avoir un photon. Si ce photon a exactement la même bande interdite, mais ça va aller impeccable. Si maintenant j'ai un photon de plus grande énergie, eh bien ce photon de plus grande énergie va avoir une énergie cinétique qui va être directement perdue dans le réseau. Et ça, ce problème de thermalisation des photons ou des électrons ou des photogénérés va être l'élément essentiel dont on va parler dans cet exposé et qui finalement va freiner le développement de cellules photovoltaïques à haut rendement. Enfin, un autre concept que je dois vous introduire est celui de semi-conducteurs à bande directe et à bande indirecte. À bande directe, vous voyez ici que dans l'espace des vecteurs d'onde, j'ai le sommet de la bande de valence qui correspond avec le bas de la bande de conduction. Et dans ce cas, j'aurai une excitation directe, on appellera ça une bande interdite directe. Maintenant, si je prends cette situation, vous voyez que dans ce cas, on n'a pas le même vecteur d'onde et l'absorption d'un photon va finalement générer deux espèces avec en bleu ici la création d'un phonon qui n'est rien d'autre que le paquet d'énergie qui va être libéré par le réseau. D'où ça va avoir également des conséquences très importantes puisque au niveau de la recombinaison, eh bien, automatiquement, si je viens procéder à deux étapes, ma recombinaison sera plus longue. Par contre, mon absorption va être également plus longue. Ça veut dire que le silicium, qui est un gap indirect, eh bien, va mettre beaucoup plus de temps à absorber. C'est-à-dire qu'il faudra des couches beaucoup plus épaisses avec le silicium qu'avec d'autres matériaux. Et tout cela se traduit dans l'importance de ce spectre ici, de ce spectre solaire. Voilà un semi-conducteur. Si j'utilise le silicium, eh bien voilà ici, si vous voulez, le seul domaine ou la seule partie d'énergie que je vais utiliser. Okay ? Et vous voyez que cette partie A ici, mais cette partie est totalement perdue pour ces problèmes de thermalisation. Eh bien, c'est ce que les chercheurs vont essayer de récupérer et vous verrez les pistes qu'ils vont utiliser pour faire cela. Alors, il y a bien sûr ce gap, mais un autre paramètre qui est très important dans le choix du semi-conducteur va être, comme vous pouvez voir ici, le coefficient d'absorption. Ce coefficient d'absorption va finalement déterminer l'épaisseur de la couche qu'il va vous falloir. Si vous avez un très bon coefficient d'absorption, dans ce cas, vous pourrez utiliser tout simplement des couches minces. En contraste, si vous avez un mauvais coefficient d'absorption, comme ça va être le cas du silicium, il vous faudra des couches épaisses. Donc voilà, si vous voulez, comment ou quels sont les matériaux qu'il faut regarder. Alors, si je regarde maintenant la schématique ou le schématique d'assemblage d'une cellule, eh bien, on va, dans ce cas, avoir un verre conducteur sur lequel on va déposer une partie métallique pour avoir directement un collecteur de courant. Ensuite, on va y mettre notre matériau d'OPP, le matériau d'OPN, avec bien sûr la jonction PN qui va être entre. Ensuite, on mettra une grille conductrice pour récupérer les électrons. Et on terminera par un revêtement anti-reflet pour faire en sorte de perdre peu de réflexion et le contact terminal, pardon, qui sera directement le verre. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut construire une cellule photovoltaïque. Alors, cette cellule photovoltaïque, eh bien, vous avez le schéma ici, elle pourra délivrer sous illumination un courant et ainsi de suite. Alors, comment allons-nous caractériser finalement cette cellule photovoltaïque? Eh bien, pour ce faire, vous avez ici l'énergie lumineuse incidente, qui est aux alentours de 1000 watts par mètre carré. On va voir directement ce que ça donne dans les caractéristiques de la pile photovoltaïque. Eh bien, sous illumination, on va pouvoir déterminer le courant court-circuit ainsi que directement le potentiel de circuit ouvert. D'où on aura directement cette forme. Mais bien sûr, lorsqu'on va utiliser une cellule photovoltaïque, il va y avoir, comme on avait montré dans le cas des appareils électrochimiques, des batteries, ainsi de suite, de nombreuses résistances, ce qui fait qu'on ne saura jamais à cette valeur maximale, et on va utiliser finalement Imax et Vmax. Okay. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on va utiliser. Et ça, eh bien, on peut définir quel va être finalement le rendement qui va être défini comme la puissance maximum délivrée sur la puissance lumineuse incidente. Eh bien, cette puissance maximale va être le produit du courant court-circuit plus du circuit ouvert par le facteur de forme qui n'est rien d'autre finalement que le rapport de B sur A. Et on va pouvoir ainsi déterminer la puissance de cette cellule photovoltaïque, oui, le rendement que je vais vous mentionner chaque fois. Donc voilà, si vous voulez, pour un peu les bases sur cet effet photovoltaïque. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir les différentes technologies qui vont être basées sur différents matériaux. Et dans un premier temps, on va s'intéresser aux composés du silicium et ses dérivés. Alors, ces composés du silicium, eh bien, vous connaissez tous le silicium, il n'existe pas sous sa forme naturelle, il existe sous des formes de silice ou silicate, d'où il faudra directement le purifier, le préparer, et on fera cela par des réactions de carboréduction à haute température. Il a un band gap de 1,1 électronvolt, un coefficient d'absorption, comme je vous mentionnais, qui est relativement faible, et ce qui va impliquer qu'il va falloir des épaisseurs de plusieurs microns. Et bien sûr, le silicium qu'on va utiliser ici n'est pas du silicium qui doit avoir la qualité d'un microélectronique. C'est la raison pour laquelle, dans les premiers temps, on utilisait le rejet d'un microélectronique pour faire le silicium pour les cellules photovoltaïques. Alors ce silicium, il va falloir le préparer et on va regarder du silicium monocristallin. Alors le silicium monocristallin mais se prépare par un procédé relativement qui date, qui est le procédé Chokraski. Finalement, ce n'est rien d'autre que la fondue savoyarde. Vous prenez directement du silicium, vous le fondez et vous allez directement mettre en germe. Et vous allez tourner et retirer progressivement. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, tout simplement, on va initier la direction cristallographique et on va pouvoir obtenir ces beaux cristaux de silicium qui sont orientés, à partir desquels eh bien, on va directement coupler les fameux wafers dont vous avez vu dans les circuits pour la microélectronique. Donc voilà, si vous voulez, comment se fait le silicium microcristallin. Alors, sur la base de ça, eh bien, on va pouvoir construire des cellules photovoltaïques. Et là, vous avez des cellules photovoltaïques différentes générations, homojonctions, qui vont différencier par de petites anomalies. Vous voyez qu'en ce cas, dans les contacts d'argent à l'extérieur, là, on va avoir des contacts d'argent enfuis. Dans ce cas, on va mettre un double réflecteur. Et en jouant tous ces jeux, finalement, on peut augmenter les rendements de 14% à 16% et à 24%. Tout ça, si vous voulez, c'est le silicium monocristallin. Mais ce silicium monocristallin, comme vous avez vu, dû à sa synthèse, coûte relativement cher. C'est la raison pour laquelle on a évolué rapidement vers du silicium polycristallin, où on est passé maintenant de ces wafers à des barreaux de silicium dans lesquels vous voyez les différents domaines. Et dans ce cas, c'est une méthode toujours pareille à haute température, mais on n'a plus besoin de faire la méthode Chokraski pour orienter directement ce cristal. Bien sûr, on fait ça avec des défauts. Il y a des défauts. Et vous avez l'orientation aléatoire des grains qui fait en sorte que la performance décroît. Mais le coût décroît également fortement. Et ensuite, une autre sorte de silicium qui a fait l'usage est ce qu'on appelle le silicium polycristallin amorphe, où dans ce cas, eh bien, c'est un silicone amorphe hydrogéné qu'on prépare par déposition en phase vapeur à partir du xylane. Et on a des composés du silicium qui contiennent de faibles quantités d'hydrogène, et dans ce cas, on peut aller de 5% à 20%. Quel est l'avantage de ce silicium? Eh bien, c'est tout simplement qu'il va avoir, bien sûr, un coût très faible. Il a un band gap qui est de 1,7 électronvolt comparé au band gap de 1,1 électronvolt au silicium pur et un coefficient d'absorption qui est beaucoup plus supérieur, d'où par conséquent on pourra utiliser des couches plus minces. Bien, à partir de cela, on va pouvoir faire également des cellules photovoltaïques. Et vous avez ici des cellules photovoltaïques que j'appellerai des cellules multicouches, où l'astuce, comme on peut le voir ici, est d'utiliser finalement de couvrir tout le spectre solaire. C'est-à-dire qu'on va prendre directement plusieurs jonctions et on va pouvoir faire finalement ces structures couches minces en utilisant une jonction simple, une double jonction ou une triple jonction. Et en faisant cela, eh bien, on va augmenter progressivement le rendement. Ce qui fait qu'en laboratoire, eh bien, on peut obtenir des jonctions triples à base de silicium amorphe. Alors, ce n'est pas exactement vrai, puisqu'en ce cas, vous voyez qu'on combine un alliage silicone-germanium avec également du silicium cristallin. Mais dans ces genres d'hétérostructures, on peut obtenir des rendements allant de 13%. Alors, un avantage également de cette technologie, c'est que l'on peut également faire des cellules photovoltaïques, je dirais, flexibles. Et voilà ici, finalement, une hétérostructure, comme vous pouvez voir, qui a été construite finalement sur un substrat plastique, où on peut avoir des rendements de 10 à 11%. Mais les résultats les plus importants, ou les plus intéressants du moins, proviennent de cellules hétérojonctions, comme vous pouvez voir ici, dans lesquelles la particularité ici, eh bien, c'est des procédés d'abord qui sont à très basse température. On a de nouveau du silicium amorphe, mais on a mis maintenant une couche entre directement l'absorbeur et le métal. Et notez ici qu'on a une cellule symétrique, c'est-à-dire finalement qu'on a deux cellules photovoltaïques. Et grâce à cela, eh bien, on peut collecter davantage de photons et on peut obtenir des rendements allant jusqu'à 18 ou 19%, comme vous pouvez voir ici. D'où, en résumé, si je regarde finalement au niveau du silicium, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Eh bien, vous avez les différentes technologies avec les rendements indiqués ici et les coûts. Et la plupart de ces technologies sont des technologies commerciales, avec le cas du silicium monocristallin, qui est le plus performant, mais bien sûr qui est le plus coûteux, par rapport au silicium amorphe, qui est, je dirais, vous voyez, une simple structure de 4 à 5%. Si on fait la triple jonction, on peut avoir 13%. Et enfin, les cellules hétérojonctions, qui peuvent vous donner du 19%. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à partir du silicium. Alors, quels sont les autres matériaux que l'on utilise aujourd'hui dans ce domaine ? Eh bien, on va directement voir la tableau périodique, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va avoir tous les éléments autour du silicium. Et dans ce cas, eh bien, on va pouvoir faire des alliages et ajuster le gap en choisissant correctement les différents composants. On va choisir ces différents composants à partir de l'électronégativité, puisqu'on sait que plus la différence d'électronégativité sera grande, plus le gap sera important. C'est la raison pour laquelle, si je peux dire, le silicium a un gap qui va être plus important que le germanium. Mais on pourra également faire la même chose avec ce que j'appellerais le nombre quantique moyen. Alors ce nombre quantique moyen, c'est la moyenne géométrique, finalement, de ce nombre quantique n qui définit directement les différentes rangées. Et si, par exemple, je prends le phosphure d'aluminium, le phosphure de gallium, eh bien, je regarde dans la variation de n, vous voyez que lorsque n va augmenter, n moyen, eh bien, le gap va diminuer. Ça veut dire qu'en ce cas, je suis en train de prendre des éléments qui vont des colonnes 3D, 4D, et ainsi de suite. Et à partir de cela, eh bien, certains composés apparaissent très intéressants. Par exemple, on voit la structure de gallium ou le phosphure d'indium qui va avoir des gaps de 1,4 électronvolts ou 1,3 électronvolts et également des composés 2,6 qu'on va voir par la suite, comme le tellurure de cadmium qui a un gap de 1,44 électronvolts. D'où, comme vous pouvez voir ici, maintenant, on a une panoplie finalement de composés dont je vais pouvoir faire directement varier le gap. Okay. Et si je fais ça, eh bien, je vais pouvoir, dans ce cas, obtenir des matériaux à plus haute performance. En effet, si je prends l'arsenide de gallium, une cellule de homojonction, je peux avoir 25%, dû au fait qu'en ce cas, rappelez-vous, on est dans le cas d'un gap direct, opposé au gap indirect dans le cas directement du silicium. Mais plus important, c'est que maintenant, je vais pouvoir refaire mes hétérostructures, comme j'ai fait avant, et couvrir directement tout le spectre d'énergie solaire. Vous voyez que si je fais ça, voilà ces fameuses hétérostructures qui sont relativement compliquées, mais qui peuvent vous donner des rendements jusqu'à 41%. Et ces rendements, on peut encore les augmenter si on utilise la technique de concentration, c'est-à-dire que maintenant, on va concentrer les radiations sur ce semi-conducteur. Et on peut aller jusqu'à 46%. Alors effectivement, vous pouvez dire, le photovoltaïque, on atteint 46% aujourd'hui. La difficulté, c'est que les coûts sont astronomiques. Lorsque vous voyez directement, lorsqu'on fait fabriquer ces hétérostructures, l'appareillage qu'il faut, ainsi de suite, on a des performances, mais bien sûr, on ne peut pas directement commercialiser ça pour la grande échelle. Alors, quels sont les matériaux, finalement, où on peut faire à la grande échelle? Bien, les matériaux qu'on peut faire à la grande échelle sont des matériaux relativement plus simples. Donc, le tellurure de cadmium. Vous avez la structure cubique qui est indiquée ici. Et vous avez ici une cellule de structure de cadmium, une cellule basée sur le tellurure de cadmium, où maintenant, on a comme verre transparent conducteur, on n'a pas SNO2, mais on a directement C2-SNO4. Bien, dans ce cas, on peut avoir des cellules qui vont vous donner des rendements supérieurs à 13%. Et dans ce cas, les matériaux sont relativement simples et les méthodes, je dirais, d'assemblage sont relativement faciles. C'est la raison pour laquelle c'est une technologie qui est fortement commercialisée et dont la production annuelle est aux alentours de 490 mégawatts. La difficulté, bien sûr, avec cela provient du fait qu'on utilise du tellurium, qui n'est pas terrible, du point de vue environnemental, et du cadmium également. Donc, c'est la raison pour laquelle on va bouger, ou on va se dépasser vers d'autres types de composés, qui sont des composés ternaires, de la famille de la chalcopyrite, CuFS2, ou la famille CIS, dans lequel il y en a CuInS2, dont on a une structure tétragonale, dont dans ce cas, les atomes d'indium, les atomes de cuivre, occupent, je dirais, les sites interstices du réseau sélénium, et le sélénium a une coordinance 4. Bien, de nombreux composés existent dans cette famille. Comme on peut le voir ici, on peut faire des substitutions avec le gallium et on peut remplacer le sélénium par le soufre. Et si on fait cela, bien on va directement avoir ces diagrammes. Et vous voyez dans ce cas que si je remplace directement le soufre ou le sélénium par le soufre, je vais remplacer par un élément d'électronégativité différente, d'où je vais augmenter le gap. De la même façon, si je remplace de l'indium par le gallium, eh bien je vais augmenter le gap. D'où vous voyez qu'ici, eh bien j'ai également une panoplie de composés que je peux obtenir avec des gaps différents et en changeant de nouveau soit le cation, soit l'anion. Et dans ce cas, on a des semi-conducteurs de type P, on a également des bandes-gaps directs et avec des coefficients d'absorption élevés. Et bien, sur ce procédé, on peut construire ces fameuses cellules CIS-CDS dont l'empilement se rapproche fortement de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant et on peut avoir des rendements de 12%. Bien, cela est développé ici, vous voyez directement la section transversale d'une cellule, vous voyez directement les différents matériaux et les différentes couches. Bien, cette technologie a été développée en collaboration avec EDF. Il y a une compagnie dans le sud de la France, qui est du côté de Rousset, qui s'appelle directement Nexis, qui développe directement cette technologie. Et ça, c'est une technologie qui a un grand potentiel au niveau rendement et ainsi de suite. Mais bien sûr, là aussi, vous avez vu que cette technologie, elle est basée cuivre, indium et sélénium. Et parmi ces trois éléments, il y en a un qui est peu abondant, qui est l'indium. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a des recherches récentes qui s'effectuent sur de nombreux composés, dont spécifiquement la castérite, dont vous voyez ici, dans lequel maintenant, eh bien, on va remplacer l'indium ou le gallium par du zinc et de l'étain. Et on obtient ces structures dont le gap peut varier en fonction des éléments que vous mettez de 1 à 1,7 électronvolts. On a là aussi des semi-conducteurs de type P avec des coefficients d'absorption élevés. Et ça, eh bien, c'est tout simplement, ça peut être produit à la grande échelle car c'est sur la base de matériaux abondants. Et en effet, si on regarde maintenant les performances de cette technologie, qui est relativement récente, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'il y a des grands progrès puisqu'on est aujourd'hui à 12% et théoriquement, on devrait pouvoir obtenir 20% avec une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des matériaux, car ces matériaux sont récents et on ne comprend pas directement les différentes phases qui nucléent ou qui croient directement durant la fabrication de ces matériaux et également du procédé d'élaboration. D'où ces phases, définitivement, constituent, je dirais, un espoir important pour la fabrication de cellules photovoltaïques à relativement faible coût, mais il y a encore pas mal de recherches qui doivent être effectuées dans ce domaine. Alors maintenant, eh bien on va directement regarder ce qui se passe lorsqu'on va passer à des matériaux à l'échelle nanométrique. En effet, dans la plupart des exposés que je vous ai donnés, je vous ai montré qu'il y avait toujours des changements de propriétés lorsqu'on passe à l'échelle nanométrique. c'est-à-dire les niveaux d'énergie dans une particule et les interactions avec ces niveaux d'énergie, avec les photons, vont changer lorsqu'on va passer à l'échelle nanométrique. Et par exemple, lorsqu'on passe par exemple du massif, en ce cas, c'est-à-dire du 3D à du 2D à du 1D, ainsi de suite, vous voyez qu'en ce cas, on peut passer de massif à des composés lamellaires, à des fibres, ou alors directement à ce que j'appellerais une boîte quantique. Et la boîte quantique, finalement, ce n'est rien d'autre qu'en ce cas, si vous regardez les niveaux d'énergie, vous avez une discrétisation des niveaux d'énergie, et vous voyez qu'en ce cas, dans la boîte quantique, vous avez des niveaux discrets. Ça veut dire qu'en ce cas, cette boîte quantique est presque un atome artificiel. Et on peut voir que si maintenant on change la dimensionnalité, eh bien on va pouvoir jouer également sur la bande interdite ou sur le band gap de ces matériaux. Et en effet, si on regarde des exemples, je prends les composés dont je mentionnais auparavant, l'arsenure de gallium, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, en réduisant la taille des particules, eh bien, je peux augmenter le gap et par plusieurs ordres d'amplitude, c'est-à-dire de 1 à 2 électrons volts. C'est-à-dire qu'on peut, en jouant sur l'effet de taille, changer le gap de façon plus importante qu'en jouant sur la substitution. Et ce que l'on peut voir également ici, dans le cas du silicium et dans le cas du germanium. D'où, bien sûr, ça va vous donner des propriétés optiques totalement différentes. Et ces propriétés optiques différentes, on va pouvoir les observer par des mesures quantiques, par des mesures de couleur. Si je regarde maintenant, tout simplement, des particules de CDSE, eh bien, qui sont directement dans ce cas, des boîtes quantiques, vous voyez qu'en ce cas, si je change la taille, je vais tout simplement changer directement la couleur de ces solutions parce que je change le spectre optique. Et vous voyez que lorsque je passe de particules de 3,7 nanomètres à des particules de 2,3 nanomètres, vous voyez qu'en ce cas, mon absorption va se déplacer, dans ce cas, vers de plus faibles longueurs d'onde, ça veut dire de plus hautes énergies, et on augmente le gap par 1 à 2 électrons volts. D'où, si vous voulez, ça, c'était très important, car ça va permettre, dans le futur, si vous voulez, d'obtenir des cellules photovoltaïques à plus haut rendement. Alors, pour ce faire, eh bien, comment on va jouer là-dessus? Alors, si on regarde, finalement, quelle est la limite de ce rendement photovoltaïque? Eh bien, les calculs montrent que la limite thermodynamique est aux alentours de 85%. Au jour d'aujourd'hui, en jouant sur les combinaisons d'hétérostructures, je vous ai montré, on peut arriver à 45%. Et effectivement, c'est ce qu'on peut faire en faisant ces multijonctions. Et la question qui se pose, c'est comment passer de ces 45% à ces 85%? Eh bien, la difficulté essentielle pour cela, c'est cette fameuse thermalisation. C'est-à-dire que toute l'énergie que l'on perd, de ces photons qui ont une énergie supérieure à la bande interdite. Et c'est ces photons qu'il va falloir essayer de récupérer. Eh bien, il y a un grand espoir, de nombreux papiers théoriques, comment, à partir de ces boîtes quantiques, on va pouvoir récupérer, finalement, cette énergie. Alors, la première qui a été proposée dans ces nouveaux concepts, c'est la récupération, ce que j'appellerais par up-down conversion de photons. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir un photon de large énergie qui va arriver, mais je vais essayer de faire en sorte, comme si j'avais un modificateur de courant, de le transformer avec un matériau qui va absorber ce photon et qui va me générer deux photons d'énergie identique au gap. D'où on va faire ces sortes de conversions, et ça, on peut le faire à partir directement de boîtes quantiques. On va également essayer de récupérer ça par directement des générations d'excitons et faire en sorte de réintégrer ça dans notre système. Et finalement, on va essayer tout simplement de réduire la vitesse de ces porteurs photogénérés par, de nouveau, des matériaux différents à l'étape de la boîte quantique. Et dans ce dernier cas, si vous voulez, on va marier finalement le photovoltaïque avec les matériaux, le phonon, du réseau, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ces trois approches aujourd'hui qui sont poursuivies pour essayer d'atteindre ces 80%. Et bien sûr, les calculs théoriques donnent de grands espoirs à 60%. Aucune, je dirais, de ces approches a été vérifiée expérimentalement. On sait que les semi-conducteurs peuvent le faire, mais on n'a pas encore vérifié. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on en est sur cette photovoltaïque inorganique. Alors, pour résumer un peu ces différents matériaux ou ces différents systèmes, eh bien, maintenant, si je regarde parmi tous les systèmes dont je vous ai montré, il y avait 4 systèmes, quelle est finalement leur intégration dans le marché? Et on s'aperçoit que finalement, la 88% des panneaux photovoltaïques que vous voyez sont à base de silicium cristallin, comme vous pouvez voir ici, seulement 3,4% à partir de l'amorphe, 2,4% à partir de CJS et 5,5% à partir de la technologie CDTE. Donc voilà, si vous voulez, une répartition aujourd'hui dans l'utilisation du photovoltaïque. Et les technologies dont je vous parlais maintenant sont des technologies nouvelles qui n'ont pas encore finalement rentré ce marché. Alors, ces technologies nouvelles que je vous parlais maintenant, ce sont différents principes. Ça va être les cellules photovoltaïques à colorant, dont on va voir finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et quels sont leurs avantages. Alors, dans ces cellules photovoltaïques à colorant, bien finalement, ce n'est rien d'autre où on va directement mimer la photosynthèse. Ici, vous avez la photosynthèse naturelle. Et qu'est-ce que vous avez dans cette photosynthèse naturelle ? Vous avez un colorant, qui va être en ce cas la chlorophylle, qui va absorber un photon et pour générer ou créer un électron et un trou. Et ce trou directement va générer l'oxydation de la molécule d'eau pour dégager de l'oxygène et un proton qui va être transformé par notre procédé de photosynthèse pour agir avec le glucose, avec le CO2 pour donner du glucose, et ainsi de suite. Et bien, vous allez voir que maintenant, dans cette cellule à colorant, eh bien, ça va être à peu près la même chose. Voilà finalement ce qu'est cette cellule à colorant. Bien, qu'est-ce qu'on va utiliser là-dedans ? On va utiliser tout simplement un colorant qui va absorber le photon pour générer, créer un électron et un trou, et directement cet électron va aller dans une bande de conduction, et ainsi de suite. Et on ne va pas dans ce cas générer des produits chimiques, mais on va tout simplement générer de l'électricité en créant des électrons et des trous. Donc voilà, si vous voulez, le principe de ces fameuses cellules qui sont les cellules de Kretzel. Alors, ce qui est intéressant, voyons directement comment ces cellules finalement ont été trouvées. Eh bien, je dirais que cet effet directement des colorants pour finalement l'effet photovoltaïque, eh bien, je dirais, a été connu depuis les années 1977, car par ces différents auteurs qui ont fait l'expérience indiquée ici, ou construit l'assemblage, dans laquelle vous voyez, il y avait un oxyde transparent conducteur, du TiO2, et une couche de colorant, avec un électrolyte, un catalyseur et de nouveau un oxyde conducteur. Eh bien, lorsqu'ils ont fait la manip, ils ont observé un effet, si je peux dire, photovoltaïque, mais relativement très faible. Et vous voyez, le concept était là. Vous allez voir finalement comment la manipulation du matériau a permis finalement de révolutionner ce domaine. Et c'est en 1991, Kretzel qui a découvert que si maintenant il prenait du TiO2 très divisé, nano-architecturé, et dans lequel il pouvait maintenant introduire son colorant et bien le répartir sur toutes les particules, eh bien il pouvait directement obtenir une conversion qui était 1000 fois supérieure. Et voilà, si vous voulez, cette fameuse cellule de Kretzel, dont le principe est l'utilisation d'une électrode de TiO2 fortement divisée, sur lequel il peut absorber de larges quantités de colorant. Et c'est ainsi qu'est apparue la cellule de Kretzel, dont le principe de fonctionnement est indiqué ici. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Regardez, vous avez l'électrode de TiO2, dont je vous ai parlé. Okay. Vous avez comme contre-électrode du platine. Bon, c'est cher, mais on peut également mettre du carbone, ça marchera aussi bien. Ou tout à fait, presque aussi bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsque directement la lumière va arriver, on va créer directement une paire électron-trou, c'est-à-dire qu'on va oxyder la molécule, et l'électron, vous voyez, première étape, on va avoir oxydation de la molécule, ensuite l'électron, la deuxième étape, va être transféré au TiO2, pour ensuite, on va avoir directement la réduction du colorant oxydé, avec un troisième électron qui va venir remplir ici, et finalement, on va avoir le circuit qui va se fermer, par, dans ce cas, les charges qui vont réduire de nouveau l'espèce I-. Ce qui fait qu'on a un transfert d'électrons, d'électrode positif à l'électrode négatif, et on a, là, bien sûr, libération d'un courant. Donc voilà, si vous voulez, le principe de cette cellule de Kretzel. Alors, comment elle se construit ? Eh bien, on va prendre maintenant un verre sur lequel on va mettre cet oxyde semi-conducteur, rappelez-vous, nano architecturé, qu'on va imprégner avec le colorant, ce qu'on appellerait le sensibilisateur, qui est finalement rappelé, la chlorophylle dans les plantes. Ensuite, on va y mettre dessus eh bien, l'électrolyte, qui est une solution de I3-, I-, qui va être le médiateur. Et ensuite, eh bien, on va avoir bien sûr le contact électrique qui va être un verre transparent conducteur ou alors une fine couche de platine, et finalement le verre. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir du verre des deux côtés. D'où, voilà directement comment se fait cette cellule Kretzel. Et l'avantage de cette cellule, comparé à celle de silicium, c'est que vous utilisez un colorant. Et ce colorant, vous allez avoir différentes couleurs. Ce qui fait que vous pouvez avoir, finalement, des cellules, si je peux dire, artistiques pour le design. Et on verra ensuite à quoi ça sert. Donc voilà, si vous voulez, comment les fabriquer. Maintenant, quelles sont les recherches dans ce domaine et quelles sont les performances ? Bien, les recherches dans ce domaine, ça va être toujours pareil. On va directement travailler sur, finalement, cette électrode TiO2, si je peux dire. Excusez-moi. Cette électrode TiO2, où on va essayer de jouer sur la morphologie de façon à faire en sorte qu'on récupère les charges. Et on va passer directement de structures, finalement, vous voyez, dans ce cas, on a des billes, à des structures, finalement, de whisker. On va également travailler au niveau des colorants pour avoir des meilleures efficacités, des meilleurs potentiels, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il y a des recherches, je dirais, gigantesques au niveau de ce colorant. Il y a toute une famille de colorants dans lesquels on a des, je dirais, des complexes avec des éléments relativement coûteux comme le ruthénium et autres. On a également des colorants directement organiques et d'autres types de colorants. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des recherches sur lesquelles on essaie de préparer des composés métal organiques dans lesquels on remplace finalement le ruthénium par des métaux 3D comme le cobalt ou alors le fer, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment on essaie d'améliorer ces systèmes. Une autre façon de l'améliorer est, comme je vous ai déjà montré dans le cas du silicium, où on va essayer directement de prendre avantage de toute la partie du solaire. Et dans ce cas, on va utiliser différents colorants. Dans ce cas, eh bien, on va utiliser directement cette molécule de couleur, je dirais, orange qui va absorber dans le bleu et le vert. Et dans ce cas, on va utiliser cette molécule qui est directement à les propriétés panchromiques, dans laquelle absorbe sur tout le spectre. Et vous voyez qu'on exporte beaucoup moins dans le bleu et le vert. C'est la raison, on va coupler finalement ces deux colorants pour couvrir au maximum ce spectre d'énergie solaire et obtenir finalement un rendement de 9,5%. Mais enfin, le résultat, je dirais, le plus impressionnant et tout récent est venu, encore une fois, vous allez voir l'histoire, c'est assez intéressant, toujours pareil. C'est un groupe de Japonais qui ont finalement trouvé un composé, qui est un composé inorganique, qui est un pérovskite, qui pouvait directement absorber ce pérovskite à la surface de TiO2 comme votre colorant. Et dans ce cas, eh bien, ils ont montré que ces composés eh bien, avaient un effet photovoltaïque. Ils ont pu obtenir, je dirais, des rendements de 5 à 6%. Et vous allez voir une fois de plus, en prenant le même concept, mais en changeant tout simplement, je dirais, la formulation et la nano-architecture de l'électrode, ce qui peut se passer. Eh bien, c'est les travaux du groupe Gretzel, une fois de plus, qui a utilisé sa connaissance sur le TiO2 divisé et qui, dans ce cas, eh bien, a exactement utilisé le même matériau, mais la façon de le fabriquer est différente. Il a utilisé un procédé à deux synthèses. Dans un premier temps, il prend PbI2 qui va dissoudre dans N-méthylformamide, c'est-à-dire qu'il va imprégner son TiO2 de ce composé, et ensuite il va faire une réaction in situ avec ce composé à l'intérieur. Il va obtenir, dans ce cas, une répartition homogène de la phase pérovskite autour de ces particules. Et bingo, lorsqu'il a fait cela, il a obtenu le record, qui est un record de 15%. Aujourd'hui, c'est le chiffre, le rendement le plus haut qui a été obtenu dans les cellules à colorant, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, comment, une fois de plus, la recherche montre l'importance de l'idée, mais également de la mise en forme. Alors finalement, quels sont les avantages de ces cellules à colorant? Bien, ces avantages de ces cellules à colorant peuvent se voir sur ce transparent. Ce que je représente ici, c'est la comparaison entre le silicium cristallin, le silicium amorphe et les fameuses cellules à colorant en violet. Et comme vous pouvez voir ici, dans le cas d'une radiation normale, c'est-à-dire jour illuminé, vous pouvez voir ici que définitivement, c'est la cellule de silicium qui est la meilleure. Maintenant, si je change l'angle de la lumière, on s'aperçoit que les cellules à colorant eh bien, sont plus performantes. Et enfin, si j'utilise maintenant une lumière artificielle, eh bien, c'est là que les cellules à colorant sont les plus performantes. Pourquoi? Parce que dans ce cas, eh bien, on utilise tout simplement des cellules dont il y a deux verres. C'est-à-dire qu'en ce cas, elles peuvent absorber selon différents angles. Et le procédé par lequel je vais créer mon paire directement électron-trou et directement s'adapte, ou le colorant s'adapte relativement bien à cette lumière artificielle. Et ça, ça va avoir des implications considérables sur les applications, parce que si je regarde les applications, eh bien effectivement, on a des rendements dans ces matériaux de 10%, comparé au laboratoire de 15% que je vous ai montré. Le coût est faible, mais les performances sont peu sensibles à l'incidence, il y a la flexibilité, et ce qu'il y a, c'est directement variation de la couleur. C'est la raison pour laquelle eh bien, beaucoup de ces dispositifs peuvent être tout simplement utilisés en appartement pour des lampes, ainsi de suite, comme on peut le voir ici. D'où, finalement, cette technologie eh bien, verra son application, je dirais, plutôt à l'intérieur des buildings qu'à la surface des buildings. Car il y a encore des difficultés pour les performances, je dirais, la durabilité, due au fait qu'on utilise quand même, rappelez-vous, un électrolyte qui est directement I3-, I-, qui n'est pas un milieu relativement sympathique, et il y a pas mal de corrosion. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur ces différents types de cellules photovoltaïques. Et enfin, je voudrais regarder maintenant la dernière partie, qui est la cellule photovoltaïque organique. Et là aussi, c'est une technologie relativement récente, je dirais, qui date des dernières 15 ou 20 ans. Alors, dans ce cas, eh bien, on va passer de l'inorganique à l'organique. Voilà la structure de la cellule photovoltaïque dans le cas de l'inorganique. Et maintenant, on a la cellule organique. Et vous allez voir qu'en ce cas, on va utiliser des polymères conducteurs de type N ou de type P. On va utiliser une jonction identique à la jonction PN. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans ce cas, un photon va arriver. Je vais créer directement un exciton. Alors, un exciton, vous ne faites pas trop de soucis, c'est directement un électron et un trou, mais tout simplement, ils sont liés par des interactions coulombiennes. Cet exciton, il va diffuser la jonction pour être directement séparé en électron et un trou et pour produire directement le courant qu'on peut voir ici dans l'étape 0,4. Si on regarde plus en détail comment cela fonctionne, eh bien, puisqu'on passe de composés inorganiques, on n'a plus les bandes de valence ni les bandes de conduction, mais maintenant on va avoir directement les niveaux HOMO qui sont directement les niveaux peu occupés et les moins occupés, l'HUMO, et ainsi de suite. Vous avez ici d'accord les accepteurs. On va utiliser dans ce cas une molécule de fullerène sur laquelle on a fait directement des substitutions. Et on a le cas des donneurs, où dans ce cas, directement, on a directement un polyhexylthiophène. Et ce qui va se passer, vous voyez, vous créez cet exciton et vous allez avoir directement le transport d'électrons et de trous. Et le potentiel de la cellule va directement être déterminé par le HUMO de votre molécule accepteur d'électrons moins le HOMO de votre molécule de donneur d'électrons. Et là aussi, le point clé dans cette technologie va être tout simplement le temps de vie de cet exciton, c'est-à-dire sa longueur de diffusion. Eh bien, cette longueur de diffusion va être aux alentours de 10 nanomètres. Ça veut dire qu'en ce cas, il va falloir construire des composites ou des matériaux dans lesquels cette diffusion soit de 10 nanomètres et surtout que la séparation des phases soit inférieure ou égale à 10 nanomètres. Donc vous avez ici les premières constructions qu'il y a eues, ce que j'appellerais des bicouches hétérojonctions, dans laquelle les chercheurs ont assemblé la cellule comme auparavant et en séparant finalement les couches d'accepteurs d'électrons et de donneurs d'électrons. C'est-à-dire qu'on avait directement une configuration bicouche. Et bien sûr, dans ce cas, les contacts étaient relativement faibles et les domaines d'absorption relativement limités. Alors, pour pallier à cela, eh bien, il y a différentes possibilités qui sont indiquées ici. On peut faire des mélanges de polymères donneurs-accepteurs à l'échelle nanométrique. Et là, toute la difficulté, c'est de maximiser les interfaces de façon à avoir une très bonne collection de charges. Et réduire la distance entre les deux phases, comme je dis, à être égale ou inférieure à 10 nanomètres. Et enfin, ce qu'il faut faire, c'est ajuster également les collecteurs de courant pour qu'on puisse séparer les électrons et trous et avoir dans ce cas des collecteurs de courant dont la fonction de travail est alignée finalement à l'HUMO du groupe accepteur, dans ce cas on utilisera l'aluminium, ou alors généralement pour les donneurs, on utilisera directement de l'ITO comme directement collecteur de courant. Donc voilà, si vous voulez, les types de matériaux qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce que ça donne en réalité ? Bien, en réalité, bien, c'est des procédés de fabrication comme indiqué ici. Vous voyez, on va avoir une cellule dans laquelle on va avoir une électrode métallique comme le collecteur de courant. Et ensuite, on va avoir cette composite qui va contenir les deux polymères, accepteur et donneur, mais mélangés à l'échelle nanométrique et que l'on veut pour avoir le meilleur des rendements, que la séparation ne soit pas plus importante que 10 nanomètres. Et ça, c'est vraiment la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez ici directement l'assemblage, où vous avez un zoom de cette partie, qui est finalement ce conducteur. Et bien sûr, vous avez ici un conducteur transparent, qui est pilote PSS, qui va dans ce cas être ici pour assurer le bon transfert d'électrons et la bonne collection de charges. Et de telles cellules, si vous voulez, ont fonctionner et fonctionne avec un entour de 5,5%. Et là, si vous voulez, on n'arrive pas à décoller trop au niveau de ces rendements. Alors, qu'est-ce qui se fait au niveau recherche ? Bien, au niveau recherche, il y a beaucoup de calculs théoriques qui se font où on peut effectivement, sachant que finalement, le potentiel de ces cellules dépend de la position des niveaux LUMO et des niveaux HOMO, on peut déterminer finalement quels vont être finalement les rendements. Et on peut arriver à des rendements de 9 à 10%. Et bien sûr, en chimie organique, on a toute une grande variété de matériaux qui existent. Il y a une très grande chance de trouver des composés ayant ces niveaux au bon endroit. Une autre recherche qui se fait est également au niveau de la préparation de ces électrodes, où là, eh bien, on essaie finalement de regarder la nanostructuration de ces électrodes composites. Vous avez ici un système désordonné et un système ordonné, et finalement, ce qu'on voudrait, eh bien, c'est exactement cette situation dans laquelle la séparation serait inférieure à 10 nanomètres. Et, comme toujours, le dernier résultat, qui date de 2013, où là, eh bien, on a fait, une fois de plus, des cellules tandem. Vous avez une cellule tandem, dans ce cas organique photovoltaïque. Ça, c'est du travail du groupe de UCLA, où ils ont obtenu le record, qui est un record de 10,6% de rendement. D'où là, aujourd'hui, quel est le record dans le cas du photovoltaïque organique. Et cela est dû à une cellule tandem, et en toute honnêteté aussi, à une modification également de ce matériau actif photovoltaïque. Donc voilà à peu près ce qu'on regarde au niveau de ces cellules organiques. Alors, à quoi ça sert et pourquoi ? Eh bien, l'avantage de travailler avec ces polymères conducteurs, eh bien, c'est qu'on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, préparer des matériaux ou des cellules photovoltaïques flexibles. Et on a des technologies qui vont être adéquates pour de grandes surfaces, comme on peut le voir ici. Mais, comme vous avez pu voir, les rendements en laboratoire sont autour de 10%. Et au jour d'aujourd'hui, directement, commercialement, on peut arriver péniblement à 3,9%. Il y a une société d'ailleurs à Boston, qui est Conarca, qui développe ces types de cellules photovoltaïques. Alors là aussi, il y a encore des difficultés à haute température vis-à-vis de la durabilité, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'état de l'art sur toutes ces technologies. Alors maintenant, je vais un peu regarder, résumer finalement, quels ont été les progrès grâce aux matériaux sur ces différentes technologies de photovoltaïque que je vous ai montrées. Alors ce que je regarde ici, c'est tout simplement des cellules uniques, dans lesquelles vous avez bien sûr le silicium monocristallin, qui est le plus performant. Vous avez le CIGS, dont je vous ai mentionné, sur lequel on peut obtenir, de nouveau, du 20,8% en laboratoire. Le telluriure de cadmium, où on arrive directement à 19,6. Vous avez l'amorphe silicium, vous avez les cellules de Grätzel, les organiques, vous voyez directement les pyrovskites, dont je vous ai mentionné. Ça, c'est une technologie qui date de 2000, où les premiers effets ont été trouvés autour de 2000, et on est déjà à 7,2%. D'où, vous voyez qu'il y a des progrès, et tout ça, une fois de plus, est à l'échelle du laboratoire. Le passage à l'échelle commerciale a quand même beaucoup plus de difficultés pour prendre le dessus. D'où, si je regarde maintenant ces différentes technologies en termes de développement durable, et si je compare celle qui est la plus souhaitable, ce que je rapporte ici, finalement, c'est l'énergie utilisée pour la fabrication sur la production d'électricité annuelle. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, c'est effectivement les cellules à colorant qui sont, je dirais, les plus attractives au niveau environnemental. Okay. Maintenant, si je place un peu à l'échelle mondiale, dans ce domaine photovoltaïque, eh bien, ce que je rapporte ici, finalement, c'est la production annuelle, en mégawatts pic. Vous voyez qu'en ce cas, en fonction du nombre d'années, en fonction des différentes technologies, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on a une installation cumulée qui est autour de 100 gigawatts, ce qui est relativement important. Mais cumulé, c'est-à-dire que si on regarde finalement dans la consommation ou le stockage mondial, ça représente autour de 5%, pas plus. Et dans ce cas, vous voyez que les technologies qui sont les prédominantes sont les technologies du silicium avec les autres technologies inorganiques. Vous ne voyez pas encore apparaître ici ces fameuses technologies à colorant ou organiques sur cette carte. Maintenant, si je regarde un peu finalement en fonction des différents pays dans le monde, mais je regarde au niveau mondial, mais au niveau mondial, c'est la Chine à l'heure actuelle qui fournit le plus directement de cellules photovoltaïques, comme indiqué ici. Maintenant, si je regarde au niveau européen, ça ne va pas vous surprendre, c'est l'Allemagne qui vraiment domine, je dirais, toute cette énergie photovoltaïque, comme indiqué ici par cet histogramme, vous voyez finalement tous les pics rouges qui émergent. Enfin, si je regarde, je crois, le plus important de tout, c'est quel est le coût de l'énergie photovoltaïque et comment celui-ci va évoluer. Eh bien, vous avez ici, finalement, l'évolution de l'énergie photovoltaïque. Vous voyez qu'en ce cas, on décroît continuellement, dû à l'effet de volume, dû au niveau des matériaux, dû à l'amélioration des technologies, et voilà ici, directement, le coût de l'électricité. Et on s'aperçoit que, théoriquement, dans, je dirais, 4 ou 5 ans, on devrait être à coût égal entre le photovoltaïque et, directement, le prix d'électricité que vous payez au réseau. Et ce graphe, si vous voulez, n'est pas unique, puisque si je prends directement d'autres sources, bien, vous voyez qu'on arrive ici à la même chose, où dans ce cas, on trace le coût du nucléaire, et on s'aperçoit finalement qu'en 2020, il va y avoir finalement un, si je peux dire, un crossover, c'est-à-dire un point où finalement ces énergies seront égales, où ce coût d'électricité sera égal. D'où par conséquent, on peut dire que dans 5 ou 10 ans, eh bien, l'énergie photovoltaïque sera, je dis, quasiment au prix d'électricité que l'on paie aujourd'hui. D'où, pour résumer tout ça, eh bien, peut-être un scénario dans le futur, eh bien, sera le couplage des batteries, des voitures électriques et des photovoltaïques. Ici, vous avez un exemple de ce couplage dans lequel certaines PME aujourd'hui eh bien, vous assurent 20 000 km par voiture par an d'autonomie sans énergie nucléaire. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce que je voulais vous raconter sur l'énergie photovoltaïque, quelles sont les recherches au niveau des matériaux, quelles sont les implications au niveau de la société et pour notre environnement. Et je vous remercierai pour votre attention pour cela.